Le bar à...
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Le bar à chat. L'émission chat, heureuse,
de Radio Saint-Afrique.
Et chatounette, chatounet, bienvenue en septembre. Vous êtes bien sur le bar à chat.
Après les vacances,
donc le bar à chat fait sa toilette de rentrée. Du coup, pour l'émission de ce mois-ci, je vous avoue, on a eu droit à une double, une double intro. Est-ce qu'on est à l'antenne ? On nous entend très
voilà.
bien.
Bon, bah alors en on fait, est bien en octobre.
On était un peu pressés aujourd'hui, donc on a pris les génériques de l'ancienne émission en pensant qu'il y avait juste le générique, mais en fait il y avait toute l'émission. On aurait pu laisser dérouler, on aurait juste remplacé octobre par septembre et puis c'était bon. Donc bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour ce bar à chat du mois d'octobre. On est très contente de vous accueillir pour cette nouvelle émission.
Oui, comme d'hab.
Qui va être...
Qui promet d'être à la fois sérieuse et puis un peu fun.
Oui, tout à fait.
Comme d'hab.
Donc, autour de la table, donc moi-même, Chaussette, à l'animation aujourd'hui. Comme d'hab ces derniers temps. Félix Potin,
oui,
toujours
bonsoir.
À mes côtés. Ça va ?
Oui, ça va bien. Ouais, oui, ça va bien.
Et on a également Henri avec nous.
Oui, le minou du mois.
Exactement.
Alors, minou, matou, ça dépend, ça dépendra de ce que
Henri
tu vas nous dire.
Henri et par minou.
Voilà, c'est ça.
Je trouve que le jeu de mots est beau. Du coup, Félix, tu vas nous parler de quoi, toi ?
Alors, ce soir, je vais vous parler de la déconstruction masculine.
Mmh. Ok.
Voilà. Est-ce que on...
On verra.
On verra
après,
plus
d'accord.
tard.
Ouais. Okay. D'accord, très bien. Henri, donc, tu es avec nous aussi pour réagir, discuter,
échanger. Je vais vous parler
échanger.
De rien du tout.
Tu vas juste écouter.
Non.
Ce serait pas mal, tu peux juste écouter et applaudir.
Ouais,
ça nous va très bien.
Oui. Faire les stars, après.
Non, mais c'est parfait. Pas plus.
Si, et... moi, je vais te poser des questions.
Bah oui. Et moi, je n'ai pas préparé grand-chose pour ce mois-ci.
Ça ne se dit pas.
Non, mais c'est, voilà, ça venait pas. Non, mais si, parce qu'en fait, c'est bien aussi de pouvoir se dire que des fois, on a un certain laisser-aller, qu'il n'y a pas la motivation qui vient, ça, voilà. Mais j'avais forcément la motivation quand même de vous faire un super retour sur le Ralachat, donc qui a eu lieu les 13, 14, 15 septembre dernier sur le Larzac. Donc, on parlera un petit peu du festival, enfin, de ces rencontres féministes en Sud-Aveyron qu'on a menées et que c'était fantastique. Et voilà, donc j'ai quand même plein de choses à dire.
Super.
Et on a de la musique. Et donc, du coup, eh ben, on peut y aller, Coco, pour
Félix. Eh ben, on va déjà commencer par un morceau. La virilité comme la féminité sont des constructions intellectuelles. Dans nos sociétés, l'homme doit correspondre à certains critères essentiels. Ces stéréotypes de mâle séducteur ou de héros additionnés à l'injonction de la société sont très lourds, voire douloureux. Comment trouver sa place en tant qu'homme dans cette société où la femme a repris son identité depuis quelques décennies ? Le mouvement féministe a été libérateur pour plusieurs générations de femmes. Aujourd'hui, comment les hommes s'interrogent-ils sur la virilité ?
La virilité. Bim!
C'est lancé. Le mot est lancé. Vous avez une définition de la virilité?
Waouh!
Bien sûr! Nique un maximum de meufs, bois de la bière, toujours des voitures! C'est ça la vie!
C'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme.
Et alors le 2 est très intéressant.
Puissance sexuelle, chez l'homme.
Mmh. Puissance sexuelle. Voilà, donc c'est toujours lié à une sexuelle. Mmh, ouais, okay. Le côté viril. Et t'as des images de gens qui font comme ça.
Oui, je vois,
c'est vrai que alors, les biceps liés à la sexualité, j'ai jamais compris au final. Non, mais c'est vrai.
On est très lié à une représentation physique.
Guerrier protecteur, quoi.
Ouais.
Grand, costaud.
Voilà. Du coup, c'est quand même répondre à des codes.
L'image du centaure associe aussi bien la force quasiment animale, l'homme, la barbe, et qui est face à une femme qui est tombée. La force qu'il exerce a fait basculer cette femme, et la façon même dont les jambes sont représentées renvoie à quelque chose qui est de l'ordre, bien sûr, de l'activité sexuelle. Ça représente le fait qu'il y a une affirmation de sa propre sexualité sur la femme. Donc c'est ça, je crois, qui joue de façon très forte, c'est qu'on peut affirmer une domination.
Enfin, c'est surtout compliqué pour les hommes. Hein. Là, je pense que c'est très compliqué d'être un homme aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué d'être un homme hier aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est compliqué. Ça sera encore plus compliqué d'être un homme demain, peut-être. Moi, j'aurais pas voulu être un homme. Quand on pense... Le premier défi qui se pose à l'homme dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander. Quoi. Faire son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine. On est d'accord ? L'homme, lui, il doit bander. Et l'origine de la virilité, elle est là, d'ailleurs. Tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux. Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo une fois que t'as réussi à faire ça.
Les questions de virilité sont vraiment arrivées au collège, où il y a vraiment un truc, je pense que les hormones commencent à jouer. Il y avait les meufs, avec qui on parlait pas, parce que c'était pas des vrais mecs. Il y avait les gays, à qui on parlait pas, parce que c'était pas des vrais mecs. Et il y avait des mecs où on pensait qu'ils étaient gays, alors qu'en fait ils étaient avec des meufs. Surtout, il fallait pas leur parler, quoi. Et moi, je découvrais ce truc-là, où je me disais, ah, mais c'est quoi ces codes trop bizarres de... C'est quoi être un mec? Qu'est-ce qui est viril? Qu'est-ce qui est être un... Presque un sous-mec? Genre, il y a des mecs plus mecs que d'autres, ou...
Je sais que moi, j'ai fait mon coming out très tardivement. J'ai bien attendu d'avoir même fini le lycée. Il y avait, dès la sixième, quelqu'un affirmé homosexuel, mais qui avait un groupe et qui était très bien intégré. Je pense que je me sentais pas correspondre à ce que lui renvoyait, donc peut-être que moi je me suis dit « putain, je suis encore autre chose ».
Je trouve que ouais, la notion de virilité, elle se questionne encore plus quand t'es gay, parce que tu dis « alors attends, comment je me place ?» Il me fallait des réponses, il fallait vraiment que je me penche dessus en disant « on veut pas des tafioles, on est gay, mais on veut des vrais mecs pour des vrais mecs, masque for masque ». Et ils sont encore plus homophobes et plus intolérants que des personnes hétéros.
Vous vous sentez viril, vous, ou pas ?
Absolument pas.
Est-ce que finalement, en fait, on peut être sensible à être viril? J'ai l'impression qu'il y a juste une honnêteté d'être sûr de soi, mais de manière honnête et pas de se cacher derrière un personnage. Ouais, j'ai l'impression que ça rend les gens très virils.
C'est très badass d'accepter sa vulnérabilité.
Ouais, c'est ça.
La définition de la virilité évolue selon le moment de l'histoire où l'on se trouve. Les valeurs de la société, des riches de ce monde et celles d'une société plus populaire ne sont pas tout à fait les mêmes. La couleur de la virilité au XVIIIe siècle et celle d'aujourd'hui non plus. C'est vrai dans l'histoire, ça l'est aussi dans l'art, où il ne manque pas de représentations de guerriers poilus et bien membrés. Le magazine culturel Stupéfiant dépeint plusieurs exemples à travers l'histoire dans le reportage « Tu seras viril, mon fils ». La virilité incarne la perfection du masculin telle qu'une époque, une culture ou une condition sociale la définissent. Elle organise les relations aux femmes et aussi les relations entre hommes. Le poids de l'héritage est puissant. Après les événements comme MeToo, l'image de la virilité telle qu'elle nous a été imposée depuis des siècles a été bien écorchée. Cette représentation de l'homme censé incarner force, honneur et courage s'est transformée en concupiscence, violence et perversion. La femme s'est libérée des mythes anciens par le féminisme. C'est au tour des hommes de s'interroger sur le poids que les canons de la société leur firent porter à eux aussi depuis des siècles. Comment se débarrasser de la partie toxique liée à la virilité, telle qu'elle peut être encore transmise aux jeunes garçons d'aujourd'hui? La loi du plus fort dès la cour de récré, jusqu'à parfois n'exister que dans une ultra-violence, et se retrouver en prison, l'apprentissage de la sexualité au travers de films porno dès le plus jeune âge, entre l'homme galant et l'absence de consentement, faire face à ces contradictions n'est jamais facile, mais absolument nécessaire. Cécile Dangean recueille des témoignages touchants et parfois drôles dans son documentaire « La virilité ». Voici ce qu'elle dit de la déconstruction masculine. « Depuis un siècle, ce modèle de la toute-puissance guerrière, politique et sexuelle est en pleine déconstruction, au point que certains esprits nostalgiques déplorent une crise de la virilité. Les masculinistes accusent le féminisme d'avoir privé l'homme de sa souveraineté naturelle. Que leur répondre ? Que le malaise masculin est certes une réalité, massive et douloureuse, mais que l'émancipation des femmes n'en est pas la cause. La virilité est tombée dans son propre piège, un piège que l'homme, en voulant y enfermer la femme, s'est tendu à lui-même.
Je veux toujours aimer me battre, depuis tout petit. Dès qu'il y avait une bagarre, on venait souvent me chercher parce que c'est un truc que j'aimais, c'était naturel. Avec mes cousins, on était une bande et quand il y avait des autres bandes, ben on se la mettait. C'était comme ça. Hein. On s'affirme. On se dit plus on est fort, plus on va être un homme. Si quelqu'un nous invite à se battre et qu'on n'y va pas, on n'est pas un homme. Et ça, c'est un déshonneur, ça. Vous me vivez une heure comme un lion que son temps comme une chèvre. Hein.
Sois un homme, ça oui, je l'ai entendu. Sois fort, tu dois être capable de te contrôler, d'avoir une volonté. Ça, tout le temps. Et quand je me regardais, je me disais, je pensais que j'étais pas complètement un homme, sans oser complètement le dire. Je suis un dominé parmi les dominants que sont les hommes. Enfin, moi, je me suis toujours représenté comme ça. J'avais un rapport à ma virilité, enfin un rapport de souffrance quoi, ma virilité.
T'es un homme.
Allez, sois un homme.
Sois un homme. Ne renonce jamais.
T'es pas une mauviette.
T'es pas une fiotte. Y a pas de place pour les faits.
Saisis-toi.
Sois un homme.
Affirme-toi.
Un vrai mec.
Un vrai. Oh. Ne doute pas.
Si tu pleures, lâche-toi.
T'es un mec ou pas?
Contrôle. Bande.
C'est les filles qui pleurent.
T'es pas une femme, t'es un vrai mec.
Ok.
Je suis au sommet de la pyramide. Je suis un homme, je suis blanc, je suis hétéro, je gagne bien ma vie, j'ai une bonne éducation, je suis en bonne santé. Vraiment, je cumule tous les privilèges. Au travail, certainement, j'ai profité d'être un homme. J'ai profité quand il y a eu des promotions, quand il y a eu des augmentations. On a dû me choisir parfois parce que je suis un homme contre une femme. Ça a dû m'arriver. Je ne suis pas coupable de ça. Ce n'est pas moi qui ai fait cette sélection, mais j'en ai certainement profité. Donc à partir du moment où j'en profite, bah moi j'ai estimé que c'était injuste, tout simplement. Et j'essaye d'inviter un maximum d'hommes à estimer que c'est injuste également. Il y a quelques années, je me suis mis à réfléchir au fait de ce qu'était qu'être un homme. Il y a quelques chiffres qui sont assez intéressants, que je voudrais partager avec vous, un peu flippants. Être un homme, c'est avoir de fortes chances d'être prisonnier dans sa vie. 96% des prisonniers sont des hommes. C'est aussi pas mal de chances de mourir sur la route. 75% des gens qui meurent sur la route sont des hommes. 75% des personnes qui se suicident sont des hommes. D'accord ? Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Vous avez une idée de pourquoi ça, c'est comme ça ?
Si il y a 75% de suicides, il y a forcément les hommes se font harceler.
Peut-être. Alors, si c'est le cas, par qui ils sont harcelés ?
Par des hommes.
Ouais.
En gros, bah, la société, elle veut que les hommes, ils n'extériorisent pas. Du coup, ils gardent tout pour eux et peut-être c'est plus compliqué.
Est-ce que ça veut dire que les femmes peuvent extérioriser et pas les hommes?
Bah, selon la société, bah, un homme, il doit pas trop laisser transparaître ses émotions, il doit être viril.
Mon père, il me dit tout le temps ça. Tu peux pas pleurer dans la vie, t'es un garçon. Donc les gens, ils veulent qu'un garçon, ça pleure pas. Mais des fois, ça pleure, en cachette, à la maison, tout seul. Pas devant les gens, parce que ça donne une mauvaise image du garçon.
En fait, ce que ça montre, ça, c'est que les hommes subissent quelque chose. Et effectivement, généralement, ils n'en ont pas conscience. C'est un système qui tend à mettre le vrai homme comme le modèle du maître de l'univers, en gros. Et on le subit tous. Et en tout cas, pour les hommes, c'est celui auquel vous devez ressembler. Et si vous n'êtes pas un vrai homme, vous n'êtes pas un homme.
Je me bats contre la virilité. En fait, je pense que la virilité est quelque chose qui a été construit, qui a été ajouté aux hommes, et que le monde se porterait beaucoup mieux si on enlevait ce truc-là. C'est quelque chose dont on n'a plus besoin. C'est un poids. Notre bite et nos couilles pèsent des tonnes à tous les moments de notre vie, depuis la plus tendre enfance jusqu'à la mort. On tire nos couilles derrière nous comme Sisyphe son rocher en haut de la colline. C'est un système stupide.
Je pense que la virilité est devenue un problème parce que la féminité est devenue une affirmation. La virilité a pendant très longtemps été un rapport presque de conflit, de concurrence des hommes entre eux. Et quand tout d'un coup, il y a une position féminine qui prend sa place dans la société, il va falloir composer avec cet autre-là. Et cet autre-là, finalement, ben les hommes le connaissent peu. Les hommes connaissent pas les femmes. Ils se connaissent eux-mêmes en tant que position dominante, représentation du patriarcat. Et quand tout d'un coup, il y a cette dimension féminine qui se met en place, il faut s'accorder de façon différente. Et par rapport à ça, il y a plein d'hommes qui sont complètement paumés parce qu'ils ont reçu le message de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père qui avait une position masculine qui allait de soi. Et en fait, ça ne va pas de soi. Ça se questionne, ça se remet en cause. Et ça se remet en cause aussi avec une position féminine qui est en train de changer.
En fait, je fais partie d'une génération biberonnée à la pornographie. Du coup, premières images pornographiques, je les ai vues à 11 ans. C'est très cru, en fait. Très cru, hyper explicite. Du coup, il y a une forme de violence là-dedans. On voit voilà, un sexe, une pénétration, un gros plan. Et donc, du coup, quand on est gamin, on se dit pas ça. La sexualité, on n'en a pas vraiment, enfin, c'est vague. Et quand on voit ça, il y a quelque chose de choquant. Dans le sens, on tombe des nues, entre guillemets. Et en même temps, quelque chose qui attise la curiosité, qui attise une forme d'excitation, enfin voilà. Et après, il y a une habituation. Plus tard, au collège, on consomme beaucoup. On va transposer sur les femmes qu'on rencontre dans la vie réelle ce qu'on voit dans le porno. Et voilà, et ce genre de pensée contribue à alimenter les relations entre hommes. On regarde entre potes, on en parle entre potes. On est entre couilles, comme on dit. La seule chose qui est partagée dans la virilité, c'est l'exclusion des femmes. Enfin, la domination des femmes dans une ambiance de connivence masculine.
Quand on est un homme, on va peut-être aussi jouir, malgré soi, du sentiment de tenir, de prendre et d'avoir ce fantasme qui existe de façon archaïque. Donc, est-ce que je l'éprouve ? Oui, je l'éprouve. Est-ce que c'est la base de la domination patriarcale ? Oui, c'est la base de la domination patriarcale. Est-ce qu'on peut s'en passer complètement ? Peut-être pas immédiatement. Est-ce qu'on peut le dépasser ? Ben oui, je pense qu'on peut le dépasser en faisant un effort critique sur soi et en ouvrant encore une fois la définition de la virilité, c'est-à-dire en le prenant moins au sérieux aussi.
Après s'être demandé pourquoi les choses ne fonctionnent plus entre hommes et femmes, après le constat qu'il existe aujourd'hui plus que deux genres, les hommes acceptent de parler plus volontiers de leur vulnérabilité car elle n'est plus identifiée comme faiblesse ou lâcheté. Les canons de la virilité sont en train de changer, la déconstruction masculine est bien en marche. Les modèles masculins sont bousculés par l'individualisation du lien social, à chacun de construire son rapport au monde selon ses ressources propres et ses choix. Peut-être que dans quelques années, les femmes vont se détendre et que nous n'entendrons plus certains hommes parler de féminazie. Il est évident que pour faire changer les codes, il faut se battre, les expliquer à ceux qui ont encore peur de les lâcher, apprendre à identifier les comportements associés aux stéréotypes, etc. Si les femmes se sont battues si fort, il faut bien dire que c'est une réponse à la hauteur de la violence physique, morale, politique et financière qu'elles subissent depuis des siècles, ainsi qu'à celle des jouissances de son corps par l'homme, tant au point de vue sexuel que féconde. Aujourd'hui, elles surviennent à leurs besoins, choisissent si et quand elles veulent procréer, se protègent seules et accèdent à des postes à responsabilité, même s'il reste encore beaucoup de chemin. Si être vulnérable est ce qui fait le plus peur aux hommes, une solution est d'apprendre à consolider son cœur et son esprit, et cela peut se faire dans le dialogue et la confiance. Il est évident qu'une société d'égalité entre tous se fera avec tous.
Sometimes
Et voilà. Donc, en fait, le petit reportage qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un montage de l'émission Infrarouge, donc le reportage sur la virilité.
Qui a été diffusé récemment.
Qui a été diffusé, qui est encore en replay sur France 2.
Okay.
Voilà, donc...
ouais, ça a l'air bien intéressant.
L'émission s'appelle Infrarouge, l'émission est très intéressante aussi. Oui, oui, le reportage est vraiment intéressant, les portraits sont très touchants. Et parfois très grinçant aussi. Mm. Voilà. Voilà, donc bon, voilà.
Il y a de la matière à échanger.
Ben, il me semble.
Là-dessus. Concrètement. Henri, qui est parmi nous. Ah oui.
Je suis censé faire le contradicteur, c'est ça, en fait.
Ah non, pas
ah non,
du pas tout.
Ah non. Non, tu peux, t'as non, même non, le droit de dire que t'es d'accord.
Oui, enfin, il y a plein de choses dans ce qu'il dit, donc... D'accord avec l'idée de faire un truc là-dessus et de mettre à plat toutes ces questions-là. Après, je ne vais pas forcément faire mienne tout ce qui est dit. Mais je pense que j'ai quelques trucs. Je pense que toute construction sociale, un peu toute image, etc., et tout, c'est quand même des produits de l'humanité. C'est-à-dire que de toute façon, on peut toujours se dire les hommes, les femmes ont fait ci, ont fait ça. On est dans une situation où les hommes et les femmes vont changer ça. C'est-à-dire que c'est une société qui bouge avec des modèles qui bougent, etc. On est en plein là-dedans. Hein. Je pense qu'il faut se dire en même temps que si le modèle masculin et féminin bouge, ça ne veut pas dire que les fondamentaux de la domination vont bouger, ils peuvent s'adapter à la situation. C'est-à-dire que... on va travailler, je pense que le but de l'émission, c'est effectivement de déconstruire, enfin, discuter de cette affaire de virilité, mais je pense que ça ne résume pas la question du pouvoir. C'est-à-dire que la domination et le pouvoir s'expriment par ce biais-là. Rien ne nous garantit que dans un modèle changé... en tout cas, il faut être très vigilant, quoi. C'est-à-dire que ce qui pourrit la vie de tout le monde, c'est la domination, en fait.
Oui.
Et donc, il faut faire attention à pas le reproduire sous un autre modèle. C'est-à-dire faire évoluer le modèle, mais garder la domination, ce serait une grosse connerie, quoi. En fait. Bon. Donc, l'idée, c'est si on déconstruit ça, c'est pour arriver effectivement à un monde plus d'égalité, de respect, etc. et tout, de confrontation. On n'est pas tous pareils. C'est pas qu'un problème de genre, quoi. Mais aussi, sortir de cette logique de domination, je pense que c'est le but de l'affaire, quoi. En fait. Et ce qui pourrit la vie. Alors des hommes et des femmes pour le coup sur cette histoire, même si les femmes étant dominées sont quand même globalement, la violence c'est plus les femmes qui la subissent. Même si, alors moi sur la question de la virilité, personnellement je pense que la virilité c'est presque plus une affaire de mecs. Et le machisme, c'est un problème de rapport entre les mecs et les femmes, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la domination. Après, on peut s'entendre sur les mots. Hein. Je pense que l'expression de la domination de l'homme en tant que genre, c'est sur la femme et à travers le sexe, etc. C'est plus le machisme. La virilité, c'est quasiment le positionnement de l'homme par rapport aux autres hommes.
Alors, il y a beaucoup de ça, c'est vrai. On l'entend d'ailleurs dans le reportage.
C'est mêlé tout ça, évidemment. C'est le même personnage qui doit faire les deux. Et il y a une cohérence dans les deux modèles, enfin, dans ces deux types de rapports. Je pense qu'effectivement, la virilité est quelque chose qui s'impose aux hommes d'abord entre eux, dans les rapports qu'ils ont entre eux, et qui aboutissent dans la vie à créer le machisme, ou en tout cas qui s'imbrique avec le machisme progressivement par rapport aux femmes. Parce que,
machisme, sexisme,
etc. Moi, l'expérience de garçon que j'ai, c'est que tu commences à vivre, bon, en dehors de la famille, qui est un milieu très particulier, quasiment c'est asexué. Mais quand tu commences à vivre dans... Enfin, en tout cas, même si j'étais dans des écoles mixtes, tu joues avec des garçons quand t'es garçon. Et les filles, je pense que c'est pareil. Et en fait, la confrontation... apparaît après. Donc tu construis d'abord tes relations de virilité dans ton groupe de mecs, enfin, dans ton groupe de copains. C'est pas toujours la bagarre. Bon, après, bon, je vais pas redire ce qui a été dit, c'est effectivement lourd. Après, on va pas pleurer.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout ça, c'est bien décortiqué dans les deux reportages dont j'ai parlé. De toute façon, on mettra tout ça en podcast.
Pour que vous puissiez
aller voir un petit peu les sources. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette réflexion en fait que l'homme pose, ce regard qu'il pose sur lui-même. Et ça, je trouve que c'est quand même assez positif, que ça donne envie de voir ce qui va se passer. Mais après, je suis d'accord sur l'idée. Que la prise de pouvoir, mais il y a des femmes de pouvoir aussi.
Le pouvoir
n'est pas genré, hein, c'est comme la bêtise, ça n'est pas genré. Donc, mais moi, je vous encourage quand même à aller voir ces reportages parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui y sont dites. Il y a beaucoup de bouquins. Je crois que tu voulais nous donner aussi
Je voulais juste rebondir. Donc, tu parlais du fait que les hommes se posent la question. C'est quand même quelque chose que moi, j'estime qui est nouveau par rapport au nombre de gens, de gars qui aujourd'hui se posent ces questions-là. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est au bénéfice de tout le monde et en premier lieu aux concernés. Mmh. On entend aussi la souffrance de certaines personnes qui témoignent et qui disent devoir porter en fait ce carcan de la virilité de « je pose mes couilles sur la table, je suis un homme ». Henri, quand tu disais aussi les petits garçons jouent ensemble dans la cour, on avait évoqué ça dans un bar à chat qui a deux épisodes, je crois, sur l'homosocialité, justement, sur pourquoi les garçons restent avec les garçons et qu'est-ce qui est aussi construit et qu'est-ce qui... Enfin, il y a toute une construction qui fait aussi qu'il y avait une séparation bien nette et puis chacun reste dans son coin et chacun se construit... Donc ça, on l'avait déjà évoqué, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant à continuer à creuser, en fait.
Bien sûr.
Après, un truc que je veux dire, c'est ça a été dit à un moment, c'est dit, mon père m'a donné une image, mon grand-père. Très honnêtement, je pense que les mères donnent autant l'image de la virilité que les pères. Mais ce n'est pas pour renvoyer la balle. Hein. C'est parce que je pense que la construction de la virilité du genre est portée par tout le monde, en fait.
Ah mais oui,
c'est-à-dire Alors après, et par ailleurs, je pense qu'il est parfois plus facile aujourd'hui. Moi, je suis mec et je l'assume. Je suis pas malheureux d'être mec, voilà. Même si des fois j'ai un peu, il y a des moments de malaise et des moments de honte quand t'es des mecs qui racontent des conneries, c'est pas possible. Mais justement maintenant, je pense qu'entre mecs, en tout cas, on arrive à en parler des fois.
Tu vois. Mais ça, c'est cool.
C'est peut-être plus facile que par rapport à des nanas, parce que c'est un peu, tu vois, bon, là, le mec il va se sentir un peu déstabilisé. Bon, mais tu peux lui dire des trucs entre quatre yeux en disant tes conneries, etc. et tout, que tu peux pas. En espérant, on arrive à discuter de trucs quand même. Je pense qu'il faut pas. Après, ça a peut-être toujours existé. Hein, je ne veux pas dire aujourd'hui on est mieux qu'avant. Hein, mais c'est vrai que je pense que le fait que les femmes aient bougé, ça historiquement c'est clair. Ça fait forcément bouger tout le puzzle de la société en fait.
Hein. L'un est interdépendant de l'autre. On est d'accord. Voilà. Ce qui est surprenant encore aujourd'hui pour moi, c'est que la plupart des hommes que je fréquente sont quand même des gens assez évolués, on va dire, ouverts et pas du tout sexistes quoi.
Sinon, tu les tapes.
Pas du tout sexiste. Mais c'est vrai que quand je me retrouve face à une situation, par exemple, un homme qui veut absolument m'imposer une idée et que je ne suis pas d'accord avec lui et qu'en bout de course, à bout d'arguments, il finit par utiliser ce pouvoir de la virilité pour me faire taire, je reste bouche bée et les bras ballants parce que je me dis, il y a encore du chemin, il y a encore du travail.
C'est là qu'en tant que mec, on a des fois honte. Un peu, que tu le veuilles ou non, en tout cas personnellement, je vais pas parler pour tous les mecs, j'en sais rien, mais je sais que je suis un mec et je l'assume. Quand t'as un mec qui fait une connerie, quelque part tu partages sa responsabilité, un peu de la même manière que quand t'es blanc, tu vois bien que la colonisation, on y est pour rien, on n'y a rien fait, mais on se dit merde, c'est quand même notre société qui l'a fait, voilà.
On est d'accord.
Individuellement, non, et c'est pour ça que c'est bien aussi, je trouve, que chacun s'approprie ça, c'est-à-dire que on puisse voir des gars qui vont reprendre en fait d'autres gars. Dans des situations où en fait l'attitude de la personne elle est pas appropriée, tu vois, à pas laisser la personne qui se fait oppresser, que ce soit une femme, que ce soit un homo, n'importe quoi en fait, n'importe quelle personne, mais qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent aussi pour dire là ce que tu fais c'est pour pointer du doigt en fait le comportement qui est inapproprié et que ça fasse évoluer tout le monde et que ce soit pas
oui et puis c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté par exemple à un moment donné les petits jeunes au début parlaient des homos qui peuvent être plus homophobes en fait que les hétéros
ça peut arriver, ouais.
Effectivement ça peut arriver, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe que ça veut forcément dire qu'on est ouvert et qu'on est sympathique et tout
comme je connais des femmes qui sont terriblement antiféministes et qui détestent le fait qu'on puisse revendiquer, en tout cas qui trouvent que ce qu'on amène sur la table, même de manière gentillette, ça nous dessert, quoi.
Ça bouge, hein, là-dessus. Enfin,
ça bouge,
c'est pas le sujet
bien sûr.
D'aujourd'hui, mais je pense que ça bouge beaucoup.
Ça bouge.
Moi, j'avais plus de copines qui, dans les boîtes, quand on discutait tout, qui disaient « Ah non, moi, je suis pas féministe. » Je disais « Mais qu'est-ce que tu veux dire par féministe ?» Parce que je pense que t'es féministe. Tu te bagarres, t'es une femme debout, t'es une femme qui se fait respecter, t'es féministe, voilà. Bon. Il y avait « Féministe, c'est être anti-mec. » Et cette guerre, elle en voulait pas. Il y avait un côté « Moi, je veux pas de haine contre les mecs, c'est pas mon truc, etc. » Et il y avait ça. Je pense que ça a bougé un peu avec MeToo, etc. Notamment, même s'il y a des tas de trucs sur les médias, enfin bon. Mais ça bouge au sens où il y a une reconnaissance de, oui, il y a quand même une oppression, comme une domination, comme une violence. Et d'être féministe, c'est déjà refuser ça.
Il y a plusieurs couleurs, bien sûr. Il y a plusieurs couleurs dans le féminisme.
D'ailleurs, chères auditrices, auditeurs, nous vous renvoyons à un ancien podcast du Bar à Chat où nous parlons de qu'est-ce que c'est le féminisme, les féministes.
Exact.
On avait pas mal décortiqué, et puis ça, c'est un sujet sans fin parce qu'on peut en parler selon.
On en reparle régulièrement.
Oui, tout à fait, ouais.
Voilà. Oh,
comment ça se fait?
Et je dis, moi, si on peut conclure là-dessus pour dérouler la suite, mais je dirais quand même que donc tout ça, ça pousse, c'est bien. Et malgré tout, c'est vraiment pas le moment de relâcher la pression, si on peut dire ça comme ça, et rester toutes et tous vigilantes et vigilants. Parce qu'en fait, même si on voit que ça a l'air d'être positif, qu'on arrive à plus d'équité, plus d'égalité, il y a quand même beaucoup de piqûres de rappel, même ces derniers temps, même dans nos sociétés occidentales, qui font que, voilà.
Oui, puis on sait bien que ce genre de choses, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà. Quoi. Donc, effectivement,
je pense à toutes les lois anti-avortement.
Essayons deux pas en avant, un pas en arrière. Je vais faire quand même.
Non, mais bon, par exemple, toutes les lois anti-avortement qui sont passées dernièrement aux États-Unis.
C'est très menacé, bien sûr.
Ouais.
Donc, voilà.
Est-ce que j'enchaîne sur le petit cadeau sonore?
Oui.
Lever son nez dans le ventre de la mère. Et c'est une toute petite graine. Et qui grossit, qui forme des intestins, des jambes, des bras, des membres, un tronc, une tête. C'est vrai, il y a des cheveux qui poussent. Eh bien, le bébé naît comme ça.
Oui, mais c'est avec le mari. C'est avec le
avec le mari. C'est... Non, pas avec Jésus, pas du tout, pas
Dieu,
avec Jésus. Non, Dieu.
D'accord, mais alors comment il a fait?
C'est pas... C'est une graine qui naît au monde et puis elle grossit, comme je t'ai dit. Et alors après, on est obligé d'aller à la clinique, on a un très gros ventre. Elle a un très gros ventre et alors elle a mal et puis on entend des petits cris.
Oui, mais c'est pas la Sainte Vierge qui va à la clinique. Faut expliquer ça.
C'est pas... Non, la Sainte Vierge ne fait pas l'enfant. Comprends?
Oui, ben...
On est des mammifères. On est des mammifères. Chez les chiens, les chats, les chevaux et d'autres animaux, la semence contenant des spermatozoïdes se forme dans des bourses qu'on appelle testicules. Voilà. Voici les bourses. Testicules. Voilà.
Pénis.
Il y en a deux.
Pénis.
Testicules. Pénis. Et ça s'appelle testicule. Bien. Cette semence sort par le sexe. Non, mais je comprends pas. Ils disent, cette semence sort par le sexe. On sait pas où est le sexe. On sait pas ce que c'est le sexe.
Je trouve qu'ils ont mis des choses trop compliquées, des mots compliqués que les enfants ne comprennent pas.
La semence du père doit parvenir à l'ovule que la mère porte dans son corps. Bien. Bon. Contrairement à ce qui se passe chez les animaux, l'homme et la femme sont poussés à s'unir ainsi par un puissant élan d'amour et de tendresse. C'est drôle. Pourquoi l'amour et la tendresse, ça fait le bébé?
Alors c'était un petit cadeau, c'est un extrait d'un documentaire de Lina donc qui date de 1970 et qui s'intitule « Comment on fait des bébés ?». Donc c'est deux petites filles qui discutent voilà, avec une journaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont en train de lire une encyclopédie pour les enfants et que quand l'encyclopédie leur explique où se trouvent les testicules, en fait, t'as le dessin d'un nounours avec deux petites bourses.
D'accord.
Et donc du coup, le nounours avec des bourses, elles comprennent pas trop. Donc c'était un petit clin d'œil en fait pour fêter la PMA pour toutes votée ce vendredi dernier, donc vendredi 27 septembre. Et ben moi je suis très contente. Mmh. Voilà.
Après, alors c'est le premier jet qui est passé.
C'est le premier article.
Que ce soit confirmé.
C'est le premier article de toute la loi. Ouais.
Très bien. Donc bon.
Voilà.
J'espère que ça va. Ça part bien.
Voilà, ça part bien. Ouais.
À savoir que, du coup, bon, après, on part sur une autre thématique, mais du coup, la PMA, j'ai vu quand même pas mal de personnes, notamment trans, qui étaient contentes que ça puisse passer, mais qui sont exclues, en fait, de ce dispositif-là. Et là, on part après sur...
Sur un autre sujet.
Sur un autre sujet
voilà.
qu'on
Mais on pourra faire
qu'on
un sujet sur la PMA, et à un moment donné, ouais, ça pourrait être intéressant. Là.
Donc, quand même, voilà. Un petit hourra. Pause douceur pour un petit temps de respiration après ces échanges qui étaient intéressants.
Respiration, on dira ça comme ça.
Oui, non. Je dis ce que je veux d'abord, c'est moi qui annule. Et toc. Très bien, alors moi, comme je vous l'avais promis en début d'émission, je vais vous faire un petit retour à chaud, comme ça. Enfin, à chaud, ça fait déjà un petit moment, mais c'est encore bien présent dans mes pensées, sur les rencontres féministes Ralachat numéro 2, qui ont eu lieu, donc, comme on vous l'annonçait dans l'émission précédente, les 13, 14 et 15 septembre sur le Larzac à Notre-Dame-de-la-Salvage. Donc, déjà, s'il fallait dire un mot, c'est fabuleux. C'était fabuleux, le temps était avec nous, il faisait beau. Nous ne sommes pas mortes de froid la nuit sur le Larzac à cette période-là, contrairement à l'année dernière. Et globalement, on n'a pas encore fait notre petite réunion de débrief entre nous, le collectif, mais on est globalement très contente de comment se sont passées les rencontres. Les gens étaient au rendez-vous, il y a vraiment eu pas mal de personnes. Et tout le monde avait l'air très ravi, tout le monde avait le sourire, c'était vraiment une petite bulle en fait, le temps d'un week-end de bienveillance et de, d'échange et de sourire et de... C'était chouette. Donc voilà, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, des concerts, des spectacles, des ateliers aussi qui ont été tous pris d'assaut. C'était vraiment chouette avec des projections également, soit de cinéma amateur en fait, le Cinécu du porno féministe qui a bien rempli la salle. Ça, c'était chouette. J'ai vraiment eu un coup de cœur, moi, pour une projection qui a eu lieu le dimanche. Attendez, hop, je reprends mes petits papiers. Donc, c'était un documentaire, en fait, qui s'appelle Revelo, de Aidan Jara. Donc, un cinéaste espagnol qui fait à peu près 68 minutes et qui était vraiment beau et touchant. En fait, c'est le portrait de Johnny, qui est une personne trans et en fait, qui présente donc des aspects de sa vie et un cheminement pendant 4 ans. En fait, Aidan, le réalisateur, a suivi Johnny pendant 4 ans de Berlin, où il habite, jusqu'en Espagne. En fait, ils ont vadrouillé un petit peu. Donc, il y a des super scènes, des super paysages et c'est vraiment très touchant parce qu'on rentre dans l'intimité de cette personne-là. Il y a aussi des temps morts, des espaces. Enfin, voilà. Je vous invite à aller le découvrir parce qu'il s'avère qu'il est sur le documentaire et sur une plateforme ouverte, en fait, sur OpenDDB. Ça s'appelle donc OpenDDB, comme dinosaure babar. C'était le moyen mnémotechnique qu'on s'était dit pour le retenir. Donc c'est une plateforme ouverte où il y a tout un tas de documentaires militants, pas forcément que féministes, voilà, c'est militant en général, avec plein de nationalités, et donc c'est libre d'accès. Après voilà, on peut aussi payer pour soutenir en fait ce site-là qui diffuse tout un tas de documentaires. Et enfin voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est une petite parenthèse enchantée aussi ce docu quoi. Et donc pour ma part, moi je voulais faire un petit retour sur l'atelier que j'avais mené.
L'atelier bricolage.
Voilà, parce que je parle de ce que j'ai vécu. Donc j'avais avec Manu le samedi matin, on a animé un atelier balade botanique. Et on est étonné à chaque fois qu'il y ait plein de monde. Les plantes, c'est incroyable comment ça attire les gens. Donc là, c'était super sympa aussi de discuter un petit peu sur les plantes qui soignent, les plantes qui se mangent à la nature. On s'est dit que vraiment, c'est un rendez-vous qu'on renouvellera avec plaisir chaque année. Et puis alors l'après-midi, donc je m'étais lancé dans un projet un peu fou qui m'avait été inspiré par le documentaire Viva la vulva sur Arte, où j'avais vu en fait une séquence où je voyais des personnes qui procédaient à du moulage corporel, en l'occurrence du moulage de vulve.
Et je m'étais dit, reportage, hein.
Voilà, pourquoi pas, lançons-nous, proposons ça. Donc après avoir tâtonné, après avoir fait des tests, voilà, je me sentais à peu près prête et je me suis lancée en me disant bon, est-ce que les gens vont répondre à l'appel, est-ce que... Et ça a été un succès fou. On a même dû refuser du monde. Et c'était assez incroyable parce que les personnes qui venaient, en fait, soit savaient à quoi s'attendre, d'autres pas du tout. Elles y venaient par curiosité, mais elles avaient vraiment cette envie de mouler, en fait, leurs propres organes génitaux. Et ça a été un effet de groupe auquel je ne me serais pas attendue. Donc j'avais pour m'aider en tant qu'assistante en chef Emma, qui m'a bien aidée aussi parce que je me serais retrouvée toute seule à devoir faire les quasiment 18 moulages de vulve, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc heureusement qu'elle était là pour m'aider. Mais ouais, c'était incroyable parce que les gens arrivaient et on leur proposait. Donc soit on procède, c'est nous qui moulons en fait sur vous, soit vous le faites vous-même. Et donc on sentait au départ qu'il y avait certaines personnes qui avaient des réticences, ce qui était normal.
Ce qui est normal, bien sûr.
C'est pour ça qu'on leur proposait aussi... et puis en fait, les personnes qui avaient des réticences, en voyant comment ça se passait au fur et à mesure, prise justement dans cet effet de groupe, tout le monde s'est lâché et c'était assez incroyable. Les gens circulaient d'un espace à un autre dans un lieu, donc on était dans un lieu un petit peu confiné, bien avec des matelas, tout ce qu'il fallait, cosy pour que les gens se sentent à l'aise. Et puis, mais en fait, ça a tellement pris qu'après, voilà, tout le monde se baladait assez librement. Les personnes étaient ravies de découvrir leur empreinte, leur négatif, et ensuite de couler le plâtre. Et ça faisait sourire tout le monde et c'était vraiment génial. Donc c'est une expérience que je renouvellerai avec plaisir. Franchement, moi, j'ai pris vraiment de plaisir. Et alors, pour toutes les personnes qui s'interrogent, parce que j'ai déjà eu des retours là-dessus, quand j'ai balancé ça, souvent les gens me regardent un peu goguenard, amusé, en disant « mais pourquoi faire ?» Et alors, justement, ce que je voudrais dire, et je pense que c'est quelque chose qui vaut pour beaucoup de choses dans la vie, l'idée de cet atelier, c'était pas le but. En fait, le but, c'est pas d'avoir un moulage de sa vulve à exhiber forcément, à coller dans son salon, sur sa porte d'entrée, à se mettre en pendentif. J'ai trouvé très beau le cheminement, en fait. Bien et moi, sûr. C'est vraiment ça qui m'a intéressée. C'est-à-dire des personnes qui viennent pour cet atelier-là. Et c'est une façon, en fait, de se réapproprier son corps. À ce moment-là aussi, de le désexualiser. De voir qu'en fait, on a ça, c'est notre corps. Et de découvrir ça, c'est le cheminement vraiment qui était intéressant. Et c'est pas le fait d'avoir un cadeau de Noël à mettre sous le sapin pour les beaux-parents ou pour la personne qui partage ta vie.
C'est quand même mieux qu'un collier de nouilles. Hein.
Ah, je sais pas, les colis de nouilles, ça peut être chouette aussi. Je sais pas, là, je juge pas là-dessus concrètement. Mais voilà, non, vraiment, c'est... C'était le cheminement qui était intéressant. Mmh. Donc, je voulais aussi le dire parce que j'ai eu plein de retours un peu étonnés en disant « Mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que t'en fais après, quoi ?» Bah, à la rigueur, on s'en fout. Si la personne a envie de le détruire après, de l'enterrer, de l'accrocher à un arbre, de le mettre dans son tiroir...
Et il y a tellement d'objets qu'on fabrique au quotidien et qui servent à rien.
C'est ça, oui.
Donc, c'est drôle comme question aussi, tu vois.
Oui. Donc non, c'était vraiment très, très chouette, quoi. Et après, voilà, que dire de plus On est ravis, il y aura forcément une édition numéro 3.
Ce que je voudrais
3.
Savoir, c'est combien de personnes à peu près ?
Pour l'atelier moulage ?
Non, pour tout le festival.
Alors c'était un peu dur parce qu'on n'a pas compté, en fait, on aurait dû. Ça fera sans doute partie des choses dans le débrief qu'on se dira. Mais je pense qu'au plus fort, ça devait être le samedi soir parce que c'était vraiment la
avec
grosse
soirée.
Avec le
concert, ouais.
Avec le concert, la boum et tout. On a dû monter à 200 personnes, je pense.
Ah, bien.
Ouais.
Pour une deuxième édition, c'est vraiment bien.
Tout à fait, ouais. Mmh. Ah ouais. Et puis des gens qui venaient de loin. Hein. On avait des gens qui venaient d'Espagne, des gens de Grenoble, de Paris, par les réseaux, par le bouche à oreille. Et puis une vraie bienveillance, en fait, sur le site. Puis le site est fantastique pour ceux qui connaissent Notre-Dame de la Salvage. Sur le Larzac, c'est vraiment un bel endroit.
Oui, ce qui veut dire que ça correspond à un réel besoin, en fait.
Oui,
hein, un festival tout à fait. Comme celui-là.
Ouais, je pense
si
vraiment.
Ça déplace des gens de loin.
Ouais. Et il y a encore matière à faire. Et d'ailleurs, je lance un appel dès maintenant, puisque je pense que c'est évident qu'on fera un troisième volet l'année prochaine. On se veut vraiment aussi, dans le collectif, être le plus inclusive possible et participative, dans l'autogestion. C'est-à-dire que le jour même, il y a des gens qui arrivaient, qui étaient peut-être motivés pour lancer un atelier, n'importe lequel qu'il soit. Elles venaient nous le dire, on disait « Ok, voilà, il y a un espace là, tu veux un espace en extérieur, en intérieur, installe-toi, propose, mets un petit carton. » Et puis ça fonctionnait aussi beaucoup comme ça. Donc là, il y a des gens qui s'en sont emparés cette année, qui l'ont fait.
Ah,
quoi.
Ça, c'est chouette.
Et là, on fera attention pour la troisième édition à bien communiquer à l'avance là-dessus en disant que nous, à partir du moment où ça rentre en fait dans ce qu'on veut promouvoir, que ce soit la diversité, l'inclusion, il n'y a aucun problème. Quoi. Mm-hmm. Et donc, ça marche aussi pour les hommes hétérosexuels, il faut un peu définir, puisqu'en fait, on a aussi eu des retours sur « bon, mais il n'y avait pas d'atelier pour les mecs
oui. ».
Alors voilà, il s'avère que moi, je suis une nana, et que les hommes, ils ont tout plein de choses partout, tout le temps pour eux, mais qu'en fait, on n'est pas du tout fermé. C'est-à-dire que si ce jour-là, il y avait un gars qui s'était pointé et qui voulait proposer un atelier, une discussion, n'importe quoi,
il avait la place.
Il n'y avait aucun problème, voilà. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons créer en fait, cet événement-là. Quoi. Mmh. On ne va pas mettre le besoin en route parce que nous, on gère ce qu'on a à gérer, nous. En fait. On s'occupe de
ce qui correspond
à
vos besoins.
Quoi, voilà. Et aussi, c'est cette idée de ne pas parler à la place des autres,
tout
simplement. Quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment ouvert. Quoi.
L'invitation est lancée.
Oui, tout à fait. Donc voilà. Je regarde un petit peu le conducteur, je regarde l'heure. Je me dis qu'on peut peut-être tranquillement décliner la fin de l'émission.
Mais oui.
Et puis ensuite, lancer une dernière musique de fin, ça peut être comme ça. On fait en même temps avec... oui, parce que alors, je suis désolée, j'ai été très impolie au tout début de l'émission, puisque j'ai fait le tour de table, mais je n'ai pas présenté Alex.
Mais parce qu'on présente à la fin, on présente toujours le Tekos à la fin.
Oui, mais quand même, là, c'était sa première. Alors,
non,
voilà,
mais on n'allait pas le présenter juste après la première bourde qu'il a fait en entrée d'émission.
Bon, qui était un peu la nôtre aussi, des bourdes.
Oh, Donc, on partage.
C'est Alexandre, le nouveau technicien de la radio, qui est actuellement en tuilage avec Clément et qui nous fait l'honneur de
Tu nous fais écouter ta jolie voix en direct.
Salut à tous.
Voilà. merci beaucoup en tout cas.
Oui, merci à toi. Ouais. Donc du coup, pour faire la petite les petits mots de fin comme d'habitude, à savoir que donc cette émission est podcastable sur le écoutable en podcast sur le site de Radio Saint-Afrique.
Ouais.
On sera rediffusé mercredi, c'est-à-dire demain à 21h. On a un peu changé les horaires. On est un peu plus descendu pour pouvoir se permettre une liberté de ton et que ça tombe pas à 16h quand les petits enfants ils sortent de l'école, voilà. Et le dimanche aussi en rediffusion à 19h. Donc on remercie Alex.
Merci Henri.
Voilà. On espère vous revoir
riche échange, hein.
À l'écoute de nouveau le mois prochain. À savoir que le mois prochain, moi, je lance ça. J'ai vu tout à l'heure quelque chose qui passait. On avait déjà dû parler du slip, le remonte-couille toulousain, une méthode de. Non, ça existe vraiment. Un contraceptif.
Je me rappelle, mais c'était l'année dernière, ça.
Exactement. Ouais. Et là, j'ai vu qu'il y avait un anneau contraceptif qui sortait, qui marche sur le même principe que le fameux remonte-couille toulousain, avec le maintien des testicules au chaud pour stopper la spermatogénèse. Donc voilà, donc je pense que
tu vas nous parler prochain, de ça.
Je vais essayer de fouiller, de trouver des infos là-dessus. Ouais,
bon,
tout à fait, ouais.
Ben quel programme.
Donc d'ici là, portez-vous bien.
À bientôt.
Chatounet. Puis on se laisse avec une petite musique. Tu choisis dans les deux qui restent celle que tu veux.
Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Au revoir.